Alors bonjour à tous, bonjour, merci pour l'accueil. Je me sens comme à la maison, puisque c'est le même Seigneur que nous adorons, avec le même esprit qui nous anime et qui nous inspire. Vous avez les salutations, bien sûr, de l'église de Muret, qui m'a transmis cela, dans aussi les personnes du conseil d'administration, l'église aussi, le conseil spirituel, tout le monde s'unit à moi pour vous saluer. Vous êtes une de nos sœurs en tant qu'église de Colomiers. Et je crois même qu'historiquement, Muret a été ouvert par Colomiers, hein, depuis Colomiers. Donc même on est redevable. Donc il paye une taxe, voilà, il paye une redevabilité, une redevance presque, ce matin en envoyant Jérémy. Non, je plaisante. Simplement, j'avais la joie d'être parmi vous, j'ai été sollicité, et puis ça collait bien puisqu'on va en Corse avec ma famille pour une semaine de vacances. Quoi de mieux que de commencer les vacances en visitant une église? Voilà, donc on est là, et puis juste après, on prendra la route pour aller prendre le bateau et découvrir le pays d'origine de ma belle famille, la Corse. Voilà, et faire découvrir ça aux enfants. C'est la première fois que ma femme sort du territoire terrestre de la France. Alors, grande épopée, le bateau. Mes enfants, pareil. Moi, j'ai peut-être jamais pris le bateau, mais j'ai pris l'avion. Et les seuls bateaux que j'ai pris, c'était pour pêcher le maquereau en Angleterre. Voilà. Donc, ça va être aussi une belle expérience pour moi. On remercie le Seigneur parce que vraiment, on a de la joie de pouvoir le servir. Est-ce que vous êtes joyeux, heureux de connaître Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux? Moi, je suis heureux. Dis à ton voisin, on est béni. Voilà, on est béni, c'est ça. On est vraiment béni de connaître le Seigneur. Parce que quand on a le Seigneur, on a tout ce qu'il nous faut. On a la personne, l'ami, le sauveur, le conducteur, le professeur, l'avocat. On pourrait donner tous les adjectifs et lui attribuer toutes les qualités possible, parce que Dieu est parfait, Dieu est grand, et on peut se reposer en lui. Et justement, sa parole nous aide, pour pouvoir se reposer en lui, nous aide à comprendre quels sont les enjeux de notre vie. Et il y a un verset, on peut l'afficher, s'il vous plaît, à la vidéo, un premier verset dans Jean chapitre 10, verset 10, qui dit ceci: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est terrible, hein? Jérémie, il arrive et il donne déjà le ton. Hein. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, dit Jésus-Christ. » Donc il y a de suite dans ce verset-là, et ça m'est venu au cœur quand j'ai vu les actualités. C'est bon, vous voyez de quoi je parle, hein, de vol, ok. Il y a des actualités où on a entendu, on a vu qu'il y avait des voleurs dans la vie. Ça nous a été rappelé, on le savait. Mais ça nous a été rappelé par les circonstances. Et Jésus en parlait déjà. Il y a 2000 ans, il y avait Jésus qui disait « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Et il fait le contraste avec lui-même. Il dit qu'il est l'opposé. Il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ça, c'est quelque chose de beau de voir que Jésus n'a rien à voir avec un voleur. Jésus n'est pas un voleur. Jésus ne s'impose pas, Jésus ne rentre pas de force dans un cœur. Jésus, il vient, il frappe à la porte et il attend qu'on lui ouvre. Il espère qu'on lui ouvre. Dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez ce texte peut-être, qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Ouvrez-moi. Celui qui m'ouvre, je viendrai, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. » Le Seigneur Jésus n'est pas un voleur, mais il existe des voleurs dans notre vie. J'aimerais parler de 4 catégories de voleurs. Il y en a peut-être d'autres, vous pourrez en trouver d'autres, mais je voudrais parler de 4 catégories de voleurs pour nous aujourd'hui. Donc vous avez le programme, 4 catégories. La première catégorie, c'est les voleurs de richesses. Okay, vous avez entendu parler du Louvre? Ouais. Oh oui, hein, ça fait l'actualité. C'est même une affaire d'État, parce que eh bien, c'est des joyaux de l'histoire française qui ont été volés, 8, plus une couronne abîmée, hein, de l'histoire de France et puis d'autres pays alentours, mais des choses très très précieuses d'une valeur, peut-être, on va dire, je ne sais plus combien, c'était 55 millions ou 88 millions, je ne me rappelle plus, mais en tout cas des millions au niveau matériel, puisqu'il y avait des diamants en grand nombre sur les couronnes, par exemple, qui ont été prises, mais aussi une valeur historique inestimable. Et ça fait vraiment une affaire d'État. Je regardais un petit peu la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, en tout cas de toutes ces personnes qui sont chargées de le faire. Il y avait une enquête pour savoir est-ce que le gouvernement et puis la députée qui est chargée de donner l'argent et le budget pour la culture, hein, le ministère de la Culture, est-ce qu'elle a donné l'argent suffisant? Est-ce que les 5,5 millions qui étaient donnés au Louvre suffisaient par an pour sécuriser? Et il y a toutes sortes d'enquêtes, et on est là, il y a de l'argent qui est remis en question, il y a le rôle de chacun, parce que, bien, on sait, il y a des voleurs qui n'ont peur de rien, imaginez-vous. Arriver avec un camion nacelle, comme ça, devant, poser des plots avec les gilets, que devant tout le monde, en pleine journée, pendant que nous, on est au culte, en plus. Non, je rigole, mais c'était un dimanche. Et il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont voler. Et oui, pendant que nous, on est affairé à tout ça, il y a l'ennemi, lui, il dort pas. Et donc, il y a ces voleurs, ils sont là, ils rentrent, le nacelle, ils montent devant tout le monde. Et puis, ils passent par un endroit. Et puis, on dit, pourquoi il n'y avait pas de caméra qui visait ces balcons? Et puis, il n'y a pas de caméra parce qu'il n'y a pas d'argent. Et puis, on rentre, et puis, ils ont disqué, ils sont rentrés. Bref, ils ont été après chassés par les gardiens, mais ils ont pu emporter des choses de grande valeur. Affaire d'État. Parce qu'il y a des voleurs de richesses, d'accord? Et la Bible en parle, elle le dit. Jésus dira encore dans Matthieu 24, verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Et on dépense de l'argent pour protéger nos maisons, pour protéger les musées, pour protéger les églises même parfois. Et c'est vrai, on met des caméras, on met des systèmes d'alarme parce que des églises se sont faites vandaliser, se sont faites parfois voler. Des fois, c'est l'offrande qui a été volée ou d'autres choses comme cela. Et on dépense de l'argent en alarme, de l'argent en gardien, de l'argent en serrure à la maison. Je ne sais pas si vous avez des serrures multipoints, là, vous savez, haute sécurité. Quel est le verrou que vous avez acheté ou que vous avez fait installer à votre maison? J'ai été cambriolé moi-même lorsque je rénovais un appartement. J'étais en train de le faire et puis j'avais mis une petite porte bas prix. Je m'étais dit, bon, c'est avec l'argent que j'ai et je fais comme ça. Et puis un jour, je viens. J'avais laissé des outils dans cet appartement, c'était à Montrégeau. Et lorsque je viens, je passe et je vois que la porte a été fracturée, les montants ont été cassés, la personne a mis un coup de pied, plusieurs coups de pied peut-être, elle est rentrée, elle a volé les outils. Ça arrive, hein, ça. Des voleurs de richesses, des voleurs de biens matériels. Il y a des entreprises qui embauchent des gardiens, qui paient des milliers d'euros, qui adoptent des chiens pour garder la maison, peut-être c'est votre cas. Toutes sortes d'argent, d'investissement, parce qu'on ne veut pas se faire voler nos biens. Il y a les voleurs de richesses. Il y a des gens qui vont même jusqu'à enlever des personnes qui ont des crypto-monnaies, vous entendez parler? Tous ces enlèvements aussi, on l'entend aussi aux informations, ces gens qui sont enlevés pour prendre leur code, pour prendre leurs choses, pour les voler, on leur coupe. Bon bref, il y a des enfants, je ne vais pas si loin. Mais vous comprenez, des gens pour les richesses, parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent l'or, parce qu'ils convoitent tout ça, ils sont poussés. Il y a quelque chose qui est comme un feu en eux et qui vont jusqu'à voler des gens, les torturer pour les enlever. Et puis nous qui avons peut-être quelques biens, eh bien on pourrait dire, voilà, on a peur de se faire voler. Alors j'aimerais crier ce matin avec ces quatre catégories, aux voleurs, c'est le titre du message, hein, peut-être qu'on vous a transmis, aux voleurs, il y a des voleurs dans ce monde. Et on pourrait dire, mais alors c'est quoi? Est-ce qu'il faut que je veille toute la nuit? Est-ce qu'il faut que je m'inquiète? La Bible donne ce conseil et Jésus dira ceci dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce n'est pas là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire là où est ce qui est le plus important pour toi, ce qui est précieux, ce qui brille, eh bien ton cœur va suivre ton trésor. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu dit de pourvoir et de lui donner une dîme 10% au peuple d'Israël qui parle des offrandes parce qu'il veut que tu t'investisses même dans ton trésor, avec ton trésor dans les choses de Dieu parce que là où tu mets ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez, quand vous aimez votre fiancé, je dis fiancé parce que quand on est marié, on n'aime plus, c'est ça? Non, j'espère pas. Mais quand au tout début, tout frais, eh bien, on vous demandait de faire, ou c'était l'anniversaire, est-ce que vous n'étiez pas prêt à dépenser beaucoup d'argent proportionnellement à ce que vous aviez? On mettait énormément, parce que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et Dieu sait que si tu amasses des trésors sur la terre, et si tu cherches à être très riche ici-bas pour toi-même, ou pour jouir, ou pour profiter, ou croyant que c'est ça ta sécurité, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Alors il donne ce conseil, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous un trésor dans le ciel. Est-ce que Dieu est contre les gens riches? Même pas un peu ? Non, je plaisante, non, pas du tout. Est-ce que Dieu est fâché contre les riches ? Non, il dira juste, oh, qu'il est dur pour les riches, qu'il est compliqué à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer là-haut. Parce que les richesses ici-bas nous inquiètent. Vous savez, les gens les plus riches, ils ne sont pas plus tranquilles. Les multimilliardaires, ils ne sont pas plus tranquilles. Ils se posent au contraire encore plus que nous, parce que moi, je ne me pose pas autant la question qu'eux. Qu'est-ce que je vais faire de mon argent ? Comment je vais faire pour ne pas le perdre ? Comment je vais faire pour le réinvestir ? Comment je vais faire pour défiscaliser ? Comment je vais faire ? Et il y a toutes ces questions. Ils embauchent même du monde pour faire tout ça pour eux. Et parfois, on les envie, mais il y en a même qui se suicident. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Le Seigneur Jésus nous a laissé ce conseil. Ne cours pas après l'argent d'ici-bas. Il dira, contentez-vous de votre solde. Paul le répétera. Et puis dans Hébreux 13, 5, il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Et il y a des promesses pour nous qui sommes enfants de Dieu, un enseignement de la parole de Dieu, de Jésus. C'est par exemple dans Philippiens 4, 19, c'est que Dieu veut pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Le Seigneur veut être celui qui pourvoit à tes besoins. Apprendre le contentement. Et si tu es content dans l'état où tu te trouves, comme Paul a su l'être, peu importe l'état, richesse, pauvreté, disette, avoir à manger, avoir un toit, être aimé, être poursuivi pour être tué, peu importe, quand tu as le contentement déjà avec qui tu es, ce que tu as, le Seigneur peut te donner plus. En fait, Dieu donne plus à ceux qui sont capables de bien le gérer. Écoutez bien cette règle. Dieu, il ne te rendra pas riche pour ton bien si tu ne sais pas gérer le peu d'argent que tu as maintenant aujourd'hui. Et moi, il y a des gens dans le ministère où on a eu des rendez-vous, ils m'ont partagé leur pauvreté, leurs difficultés. Et je dis, on va vous aider, on va mettre des choses en place. Stéphanie est témoin, mon épouse. On a mis en place des choses, on est venu. J'ai dit, venez, je viens chez vous, on prend un rendez-vous. Quand j'arrive chez eux, je vois un écran plat qui fait la taille du mur. Je vois la dernière console que moi, je ne peux pas me payer. Je vois les choses et il dit, j'ai un crédit et j'ai plus d'argent sur le compte pour payer mon loyer. Je dis, ben vends ta télé, vends ta console. Mais ça me fait... Enfin, on rigole parce que ça paraît... Mais en vrai, c'est juste de la logique. Je l'ai fait à une époque de ma vie. Je sais ce que c'est que d'être au resto du cœur. Je sais tout ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis d'aller beaucoup mieux, mais parce qu'il m'a donné une femme qui sait gérer l'argent. Mais je vous donne juste des choses naturelles, normales et logiques, mais que Dieu éveille notre bon sens. Vous savez que le mot sagesse, c'est le même mot que le mot bon sens. Donc il y a une sagesse surnaturelle, mais il y a aussi une sagesse qui vient du bon sens. Ça donne aussi du bon sens. Et si tu ne sais pas gérer le peu d'argent que tu as, Dieu ne t'en donnera pas plus parce que l'argent ne change pas les cœurs. Écoutez bien aussi cette règle. L'argent ne change aucun cœur. L'argent révèle les cœurs. Et quand t'as peu d'argent, tu ne peux pas tout faire. Et ça te garde. Et quand tu as énormément d'argent, si tu es attiré par des choses mauvaises, le fait de pouvoir le faire, tu vas commencer à les faire. L'argent ne change pas les cœurs. L'argent le révèle. Parce qu'il y a des gens qui étaient pauvres, mais qui étaient déjà généreux, ils sont devenus riches, ils ont été encore plus généreux. C'est pas le problème, ce n'est pas l'argent. C'est le fait de courir après l'argent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre parce que ça peut être volé, ça peut être perdu, tout ça. Il y a la teigne, il y a la rouille, il y a toutes ces choses. Amassez-vous un trésor dans le ciel. Parce que là-bas, ça ne se perdra jamais. Et c'est la priorité. Et si tu t'amasses un trésor dans le ciel, Dieu peut aussi permettre que tu sois béni avec certaines richesses d'ici-bas, mais il te donnera la sagesse de ne pas en faire une idole. Parce que l'argent est aussi une idole. Et il nous faut veiller sur notre cœur. Le Saint-Esprit nous y aide, la parole de Dieu nous y aide, et vous avez un bon pasteur qui vous y aide aussi avec son épouse, un couple pastoral qui est là pour vous y aider. Mais on veut être là, et puis des frères et sœurs, on s'encourage, on veille les uns sur les autres. Il ne m'a pas payé pour dire des bonnes choses ce matin, hein. Alors s'il y a des compliments, c'est parce que je le connais un peu, et c'est simplement ça. Oui, il y a des voleurs de richesses, et c'est vrai que c'est bien de sécuriser ses richesses, c'est bien qu'il y ait des alarmes, c'est bien qu'il y ait tout ça, et c'est bien de peut-être prendre un abonnement pour la maison, pour éviter quand même, mais quoi qu'il arrive, si un voleur veut rentrer, il rentrera. Et puis je vais vous annoncer quelque chose, c'est que le jour où vous irez au ciel, vous ne prendrez pas votre maison, vous ne prendrez pas vos bagues. Dernièrement, je visitais une mamie, c'est une mamie qui a eu un AVC, et donc elle est alitée, et maintenant elle est alitée H24, elle est tout le temps alitée. Elle ne peut plus se déplacer, tout ça. Et elle est très triste parce qu'elle ne peut plus venir à l'église, et on essaie de la visiter autant que faire se peut, avec des frères et sœurs qui se sont liés. Il y a un groupe de visite avec, en collaboration avec le pasteur qui se fait à Muret, et donc cette mamie, elle est entourée. Et puis au bout d'un moment, j'ai été étonné, parce que je suis venu la voir une fois, deux fois, trois fois. Et puis la troisième fois, je vois que quand je viens la voir, même le matin, un jour je suis passé à 9h parce que je ne pouvais pas plus tard, je dis, est-ce que 9h c'est bon ? Elle m'a dit, oui, c'est bon, ils sont passés depuis 7h30, les personnes qui viennent me changer et m'habiller, m'apprêter. Donc je dis, ok, je viens à 9h, et elle avait des boucles d'oreilles. Moi, j'en mets pas, c'est pour ça. Des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers en or. Elle avait des bracelets en or. Elle avait une montre en or. Elle avait tout ça. Et elle avait tout sur elle, alors qu'elle est seule à la maison. Et d'un coup, la première fois, j'avais dit, oh, elle est bien apprêtée, elle est jolie, c'est une belle mamie, tout ça. Et puis un jour, enfin, cette troisième fois, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait qu'elle est tout le temps avec tous ces bijoux-là ? Et puis elle est à côté du lit, à droite et à gauche, vous savez, les petites choses que les femmes, elles ont, là, les petits appareils, je ne sais pas comment on dit, là, les présentoirs, avec toutes les choses bien alignées, tous les bracelets, toutes les choses, et de l'or comme ça. Wow. Et ce n'est pas le fait qu'elle ait de l'argent ou de l'or qui m'étonne, mais c'est le fait qu'elle le porte sur elle tous les jours comme ça. J'ai remarqué. J'ai dit, mais dites-moi, vous mettez ça tous les jours sur vous ? Ah oui. Et même, je vais vous dire, quand on me change le soir, on me change, on me lave, on me passe la douche, tout ça. Mais après, je demande à ce qu'on me remette les bijoux et je dors avec mes bijoux. Véridique. Et ça pourrait être anodin, vous comprenez ? Mais c'est comme si le Saint-Esprit me montrait que j'avais quelque chose à partager avec cette sœur, que je pouvais l'aider. Et je lui ai dit, écoutez, sœur, je suis étonné. Pourquoi vous mettez ces bijoux la nuit ? Parce que sinon, j'arrive pas à dormir. Hein ? Il dit, mais imaginez-vous qu'un voleur, il vienne et qu'il vous vole tous vos bijoux. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, oh là là, là, je ne peux pas l'imaginer. Bon, c'était trop dur pour elle. Vous imaginez ? Et j'ai dit, mais imaginez-vous que Dieu vous dit de jeter tous ces bijoux, de les vendre et de donner l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, oh, je ne peux pas, pasteur. Parce que ça, c'est ma maman, ça, c'est mon mari, ça, c'est mon machin, ça, c'est le jour de mon diplôme, ça, c'est mon anniversaire de ceci. Et j'ai dit, mais, sœur, est-ce que c'est ça, votre éternité ? Est-ce que c'est ça, votre vie ? Ou est-ce que c'est Jésus ? Est-ce que c'est votre espérance, votre foi, la parole de Dieu ? Est-ce que c'est ça ? Et puis, en parlant, on a découvert, ensemble, et elle a pu réaliser qu'elle avait une idole dans sa vie. C'était ses bijoux, c'était ses richesses. Et il y a des voleurs de richesses, donc on y fait attention. Mais est-ce que c'est après ça qu'on court ? Est-ce que c'est ça qui fait ma vie ou pas ? Ce matin, je nous rappelle simplement le conseil de Jésus. Cours pas après ces richesses-là. Si tu en as, merci Seigneur, tant mieux. Mais que ça ne t'empêche pas d'être généreux envers les pauvres. Que ça ne t'empêche pas d'honorer Dieu comme Dieu doit être honoré. D'accord ? Et ça, c'est important. Apprendre à ne pas faire de ces choses une idole, mais à garder Dieu en premier dans ma vie. Et lui donnera avec largesse pour qu'on soit nous-mêmes généreux et qu'on fasse des largesses en abondance, comme le dit aussi la parole de Dieu. Il y a aussi les voleurs, un autre type de voleurs, une autre catégorie, c'est les voleurs de temps. Ah, vous les connaissez ceux-là ? Les voleurs de temps. Non, je ne parle pas de nos petits-enfants, hein, de nos enfants qui nous demandent toujours « Papa, maman, maman !» Ça, ce n'est pas des voleurs de temps. C'est nos enfants, on doit leur accorder du temps. Mais vous savez que le temps, c'est encore plus précieux que l'or et l'argent. Il y a une anecdote qui est racontée. Un jeune garçon se promène dans la forêt. Une forêt, il habite un village très très pauvre. Et donc il va pour chasser dans la forêt, pour se balader. Et puis tout d'un coup, il trouve des cailloux merveilleux. Des cailloux vraiment avec une forme qui lui va, avec quelque chose de spécial. Et donc il les utilise pour sa fronde, pour aller chasser. Et il va dans la forêt, il commence à chasser, chasser, tout ça. Et puis il attrape quelques petits animaux. Et il rentre au village. Et il avait récolté ces quelques cailloux, quelque part, qui étaient là, amassés, bizarrement, dans la forêt. Et puis il rentre au village et il dit, regardez, j'ai pu chasser ça, tout ça. Et il dit, oh super, t'as trouvé les cailloux qu'il faut, c'est super. Oui, oui, des cailloux qui sont merveilleux, ils ont un poids particulier, génial. Et ils disent, montre-les-nous. Et là, il montre. Et là, les gens du village disent, mais c'est pas possible, c'est des bijoux, c'est des pierres précieuses. Tu as utilisé ça pour chasser. On aurait pu sauver le village et les vendre et avoir de l'argent pour le village. Il dit, je ne le savais même pas. Et il avait tout gaspillé et tout jeté comme ça dans la forêt. Et c'est un peu comme nous, parfois on gaspille notre temps. On ne réalise pas, pour nous, c'est comme ces petits cailloux qui n'ont pas de valeur. On l'utilise pour chasser un petit bienfait, un petit plaisir, un petit quelque chose. Et puis un petit film, et puis un petit réseau social, et encore une petite vidéo, et on se l'aide, et toutes sortes de choses comme cela. Et puis on va jouer, et puis on va ceci, et puis on gaspille le temps comme des cailloux qui n'auraient aucune valeur, alors que ce sont des perles précieuses, les minutes et les secondes que le Seigneur nous donne. N'est-ce pas? Est-ce qu'on l'a réalisé, ça? Que le temps, c'est une richesse que des voleurs viennent nous voler. Et je les citais, je peux reprendre, les écrans, les réseaux sociaux, les distractions, les mauvaises priorités volent nos heures de prière, de lecture, de communion avec Dieu, de communion avec l'Église, les frères et sœurs. Les passions vers lesquelles nous investissons tout notre temps aux dépens de notre santé spirituelle, mais aussi de la mission à laquelle nous sommes appelés tous. Parce que, frères et sœurs, nous sommes appelés à une mission. La mission, c'est de rester dans un bureau à lire la Bible toute notre vie, dans un couvent, jusqu'à notre mort. C'est ça? Est-ce que la mission, c'est qu'on dise « Alléluia, merci Seigneur » tous les matins pendant 10 minutes avant d'aller au travail, et puis après de vivre notre vie en péchant pas trop, et puis après en attendant le retour de Jésus? Est-ce que c'est ça notre mission? Notre mission, c'est d'utiliser tout notre être, corps, âme, esprit, tout qui nous sommes, pour le salut du monde et pour la gloire de notre Père. Premier rôle, être des adorateurs. Deuxième rôle, être des témoins. C'est ce que Dieu attend de nous. Et puis nous, on est là, et puis on dit, bon, je suis allé au culte le dimanche matin, j'ai passé une heure et quart ou et demie, je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais en tout cas, on est là, et puis on a passé ce temps-là, on dit, ah, j'ai payé la taxe, et le reste de la semaine, c'est pour moi. J'ai donné ma dîme du temps. Et on est tout fiers. Et le Seigneur, il dit, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour aller témoigner. J'ai besoin pour que tu ailles témoigner, être un témoin, déjà avant de témoigner dans le sens parler, mais être ce témoin et par ta vie raconter ma gloire, raconter mon pardon, raconter ma grâce, raconter ma patience, raconter mon amour, raconter ma compassion, ma miséricorde, tout cela dans tous les actes que nous faisons et dans qui nous sommes et ce que nous disons aussi, au travail, à l'église, dans la rue, chez mon voisin, auprès de ma famille, auprès de gens que je n'ai plus vus. Le Seigneur attend de nous ces choses-là. On est sauvé, pas par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et tu es sauvé, mon frère, ma sœur, pour être un ou une témoin sur la terre. Les témoins, ça dérange? C'est un peu comme le témoin de la ceinture de sécurité. Quand on ne la met pas, ça s'affiche. Alors il y avait un pasteur, il avait eu il était malin, il avait mis un scotch sur le témoin, comme ça, il ne le voyait plus. Il dit, ah, c'est génial, au moins, je ne suis pas gêné, parce qu'il ne voulait pas mettre sa ceinture de sécurité. Et puis le policier l'a arrêté, il a dit, mais vous êtes fou, vous allez avoir un accident, tout ça. Il a pris une amende, et puis ça l'a fait réfléchir. Alors, je ne suis pas venu vous mettre des amendes ce matin, attention, et je me sens concerné par ce que je vous dis ce matin. Vous savez que quand on pointe un doigt vers les autres, il y en a trois vers nous, hein. Ça ne marche pas. Donc on ne peut pas être des accusateurs, et ce n'est pas du tout ce que je fais, mais je veux juste nous rappeler dans Éphésiens 5, versets 15 à 17. Est-ce que tu peux l'afficher à la vidéo, s'il te plaît? Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages, la suite. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et dernière partie, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes ton temps. Le Seigneur veut que tu rachètes le temps, que tu l'utilises de la meilleure manière. Et si tu culpabilises pour le temps perdu, je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais j'ai vu des papis qu'on a baptisés, des mamies parfois, ils disent « Ah, si j'avais seulement accueilli Jésus dans mon cœur plus tôt !» C'est vrai ou pas? Il y en a qui se sont fait baptiser après 20 ans? 18, 20 ans, oui, ok. Il n'y a que ça. C'est avant 20 ans tous les autres? C'est après 20 ans. Ok. Qui a été baptisé après 20 ans? Levez la main. Ouais. Montrez. Qui a été baptisé après 30 ans? Après l'âge de 30 ans. Ok. Après 40? De moins en moins. Oh. Après 50? Et après 60? Non, voilà. Ah si, il y a des survivants. Après 60 ans? Ok. Super. Sur le tard, est-ce que vous regrettez de vous être fait baptiser?
Ah oui.
Ah oui? Oh mince. Vous vouliez pas vous faire baptiser? Est-ce que... Ah, vous entendez mal, c'est pour ça. Est-ce que vous regrettez de vous être fait baptiser?
Ah non,
ben voilà. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt?
Ah
Voilà, merci, c'est bon. Merci beaucoup. Excellent. Et oui, c'est ça. On se dit, ah, si je l'avais fait plus tôt, parce que ça vaut le coup. Parce que quand on est engagé avec Jésus, Jésus est engagé avec nous. Et c'est quelque chose qui avance. C'est beau de savoir qu'on est engagé l'un envers l'autre. Et les choses se mettent en place. Dieu peut aller encore plus loin le jour où je m'engage envers lui. Et ne pas attendre. Et dire, oh, si j'avais su, ou si j'avais écouté avant, ah, je l'aurais fait plus tôt. Et ça aurait vraiment changé la donne, je crois. Parce qu'on perd du temps. Mais on n'a pas à vivre dans le regret. Et la Bible dit que Dieu peut nous donner, nous racheter ou nous redonner les années que les sauterelles ont mangées. Hein ? Il y a des grignoteurs de temps, et le Seigneur est prêt à nous redonner ce qui a été perdu, dans le sens de nous donner de vivre une vie peut-être, ou la suite de notre vie peut-être, qui sera courte aussi, quand on s'est fait baptiser à 90 ans par exemple, j'imagine qu'on ne reste pas 100 ans, mais peu importe s'il nous reste peu de temps, peu importe le temps qui te reste, ou le temps que tu as aujourd'hui, en prenant conscience peut-être que tu gaspilles du temps ce matin, de te dire, oh, j'ai tellement perdu de temps, ce n'est pas pour qu'on vive dans la culpabilité. Peut-être on peut demander pardon à Dieu pour le temps perdu, mais on peut croire que le temps qu'il nous reste, on peut l'investir à fond et Dieu le rendra fructueux, encore plus fructueux que lorsque c'est sans Dieu. Oui, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il n'est jamais en retard. Il est toujours là au bon moment. Et il n'y a pas de temps avec Jésus. Il n'y a pas de temps de bureau, vous savez, d'horaire de bureau. Ce n'est pas comme nous, les pasteurs, où on est humain. On est disponible à certains moments, mais la nuit, on dort. Désolé, la nuit, on dort. Et même la nuit, quand on nous appelle, on essaie de répondre, mais parfois, ça peut arriver. Jésus, lui, il est disponible tout le temps et il veut répondre à nos besoins. Dans Psaume 90, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours » afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours, à ne pas perdre un seul jour. Il y a aussi les voleurs de cœur. Il y a les voleurs de richesse, les voleurs de temps et les voleurs de cœur. Proverbe 4, 23 pardon, dit, on connaît bien ce verset, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des relations qui ne sont pas fondées sur Dieu, il y a des influences toxiques, des blessures non guéries et tant d'autres choses qui peuvent voler notre cœur, voler notre espérance, voler l'assurance que nous avons, voler la confiance en soi, mais aussi surtout la confiance en Dieu. Il y a tant de choses dans la vie qui peuvent voler notre cœur, n'est-ce pas ? Et notre cœur peut se faire voler, voler la paix, voler la joie, voler toutes sortes de choses que Dieu veut mettre. Il y a des cœurs qui sont devenus froids, des cœurs qui sont devenus endurcis parce qu'on leur a volé quelque chose. Tu t'es engagé dans une relation qui t'a détruit ou qui t'a détruite. Parfois même avant ta conversion, avant même que tu t'approches de Dieu. D'autres fois, c'est des jeunes qui ont grandi dans l'église, mais l'amour a fait briller et miroiter des choses et tu t'es embarqué dans une relation et tu t'es fait voler la pureté de ton cœur. Tu t'es fait voler l'innocence, tu t'es fait voler la confiance parce que la personne a été méchante, parce que tu as une relation qui t'a détruit ou qui t'a détruite. Tu as donné tout ton amour, tu as fait confiance à la personne et la personne t'a trahi. Tu croyais que telle relation, telle amitié allait être bonne et que tu allais avoir des potes et des amis et que vous alliez faire plein de choses superbes et tu ne réalisais pas que tu étais en train de détruire ce que Dieu avait fait de toi lorsqu'il t'a créé, sa créature pure, innocente. Quand on est pur et innocent. Mais au fur et à mesure de la vie, il y a des expériences et des choses. Parfois, on n'a pas eu la grâce d'avoir des parents qui nous ont éduqués et enseignés pour être avertis des dangers de la vie. Parfois, on a entendu, on a eu la bonne éducation, on a eu même l'Église, mais on n'a pas écouté. Et on s'est égaré dans quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on a le cœur qui est brisé, le cœur qui est abîmé, le cœur qui est pollué. Parfois, un cœur qui n'arrive même plus à pleurer. Je connais des personnes qui ont vécu des expériences tellement douloureuses dans leur vie, des déceptions incroyables ou des accidents tellement forts qu'ils n'arrivent plus à pleurer. Plusieurs fois, je me rappelle à Sainte-Agne, une personne qui vient me voir et qui me dit « Jérémy, j'ai un problème. » « C'est quoi ton problème ?» Elle me dit « J'arrive pas à pleurer. Ça fait des années que je n'ai plus pleuré. Et je suis triste et j'ai peur parce que je me dis « Mais comment ça se fait que j'arrive plus à pleurer ?» Ce n'était pas une personne âgée, c'était une jeune personne et très jeune. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé que tu n'arrives plus à pleurer ?» Mais rien, je ne vois pas. Et finalement, Mais en partageant, mais tiens, c'est quoi, raconte-moi ta vie. Et puis il me dit, et finalement, on découvre qu'il s'était embarqué dans une relation, il a été déçu, il est allé vers des addictions, et puis finalement, il y a une culpabilité qui était sur lui, etc. Tout ça, il revenait petit à petit au Seigneur, il avait commencé à revenir à Dieu de tout son cœur, mais il y avait un travail de Dieu qui devait se continuer, une restauration. Et quand il était dans les réunions, il voyait les gens être touchés, mais lui, rien. Rien. Et ça lui faisait peur. Il dit, mais je ne veux pas vivre comme ça toute ma vie. Il y a des cœurs qui se sont fait voler. Il y a des cœurs qui se sont fait arracher. Si tu es dans une addiction, ton cœur a été volé par le péché, par la débauche, par des choses aussi. Il n'y a pas eu d'équilibre peut-être dans ta vie et tu t'es fait voler des choses. Il y a des choses, tu savais qu'il ne fallait pas y toucher, tu y as touché, tu t'es fait voler quelque chose. Et aujourd'hui, tu le sais. Et tu peux dire toi aussi, peut-être, oui, mon cœur est abîmé, mon cœur est meurtri. Et peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont ce cœur comme ça et qui n'ont pas encore exposé leur cœur à la grâce de Dieu, aux soins du Seigneur, pour qu'il puisse venir réparer ce qui a été volé, abîmé, détruit, lié parfois. On a une habitude, un réflexe de se faire une carapace quand on a vécu certaines choses. Et ça nous isole. Et notre cœur, il n'est plus libre parce qu'il y a une carapace qui est censée le protéger. Mais finalement, c'est comme une prison qui se fait autour de nous. On avait vendredi le baptême d'un homme qui racontait comment son père avait été avec lui. C'est un enfant du placard, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des enfants qui sont enfermés dans la cave, tout petits, toute la nuit. Une cave noire, sans lumière, sans chauffage. Il a dit qu'il a été enfermé dans la cave, enfermé dans les placards, enfermé dans la neige, tout ça, dès tout petit. Son père était dans l'alcool, était dans la violence, et il a été maltraité. Il dit, j'ai grandi avec ça, et sa maman avait un problème psychologique et psychiatrique, et donc elle n'était pas en capacité de sauver et de prendre soin de son fils. Donc il a été comme ça jusqu'à ses 14 ans. De sa naissance à ses 14 ans, c'est l'éducation, la vie qu'il a eue. Et il s'est dit, moi, faut pas que je me fasse avoir, je ne laisserai personne me toucher. Il a commencé à vouloir chercher des solutions pour se défendre et se protéger. Il a dit, je ne vais pas me laisser faire. Et puis, il a eu un bon réflexe, je pense. Il a dit, je vais aller dans l'armée, parce qu'au moins, on va m'apprendre à me défendre et je vais servir mon pays une bonne cause. Je trouve que c'est pas mauvais, vous voyez. Pas pour tuer des gens, mais pour apprendre à se défendre. Et dit, j'ai grandi, et très tôt, vers 14 ans, j'ai eu une conscience de Dieu. Quand j'étais dans la cave, quand j'étais dans le placard, je priais Dieu, alors qu'on ne m'avait jamais parlé de Dieu. Il avait dû en entendre parler comme ça, et il priait, il parlait en tout cas à Dieu. Il ne priait pas, il dit, je ne priais pas, je parlais. Je ne savais pas prier, en vrai c'est de la prière, hein. Discuter avec Dieu, c'est ça la prière. Hein. Et donc, il parlait avec Dieu, et il dit, donc, ça m'a donné de ne pas aller vers le mal et me venger. Il a juste, dès ses 14 ans, plus jamais pensé à son papa. Il a voulu laisser ça derrière lui. Son papa les a abandonnés avec sa maman, ils ont divorcé. Il est resté un peu avec sa mère, malgré les difficultés. Puis il a fait sa vie, l'armée, et il a servi son pays pendant 28 ans. Et il raconte qu'à un moment donné, il était en voiture au nord du Mali, il roule sur une mine, et le camion explose avec la mine. Et donc il se retrouve comme ça, tout le monde est sonné, mais personne ne meurt. Et il se pose la question, mais pourquoi je suis avec, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il pense à son père, alors qu'il n'y avait plus pensé. Il dit, oh, si j'étais parti, je n'aurais plus jamais vu mon père. Il faut que je pardonne mon père. Et dans son cœur, il dit, je prends la décision de pardonner à mon père. Il termine la mission, quelques mois, il rentre, et là, on l'appelle. Francis, ton papa est mort. Il est parti. Il est parti le 2 novembre. La mine, c'était le 2 novembre, le jour où il a pardonné juste avant que son père meure. Incroyable. Et dit, je ne connaissais pas Dieu, je ne m'explique pas ce qui s'est passé, mais je vois que Dieu conduisait ma vie et me gardait de tomber dans la vengeance, tout ça. Et puis finalement, Dieu a conduit, je vous passe très vite, que des années plus tard, il se retrouve, il arrive à Muret, et là, il comprend que Dieu existe vraiment, non pas comme il l'avait découvert au travers des choses qu'on lui disait, mais cette fois-ci par une rencontre personnelle. Et il est à l'église, il s'est fait baptiser, et il est tout prêt à servir. Et aujourd'hui, c'est sa première Sainte-Seine qu'il prend avec nous. Voilà. Et il est tout content. Mais voyez, ça pourrait arriver que notre cœur se blinde. Et il dit aussi que dans les relations amoureuses, il a toujours eu du mal, il s'est marié, divorcé, parce qu'il avait peur d'être abandonné, peur d'être trahi. Vous savez, un automatisme de sécurité qui se fait parce que, eh bien, il arrive ça. Les voleurs de cœur, les soucis de la vie. Oui, si on fait partie de ces blessés, de ces accidentés, de ces personnes qui ont le cœur sali, peut-être même, il faut venir à Jésus sans tarder, afin qu'il soigne, lave notre cœur, qu'il le répare, qu'il le purifie, qu'il le change et qu'il le transforme. Parce que le Seigneur veut le faire. Il y a un texte dans Ézéchiel 36, verset 26, qui dit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible à nouveau, qui peut s'émouvoir devant la beauté de ce qui est devant ses yeux ou devant l'horreur parfois que certains vivent. » Psaume 51,9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Jésus le fait, il a donné sa vie pour réparer, effacer les fautes et réparer les cœurs brisés. Et puis, un dernier voleur, je fais vite. Le dernier voleur, c'est le voleur d'âme. Alors quand je dis âme, vous savez, bon, l'âme, ce n'est pas juste les pensées. Hein. Quand je dis voleur d'âme, c'est comme l'expression de sauver nos âmes, c'est-à-dire cette vie éternelle, l'esprit, on pourrait dire l'esprit. Hein, l'esprit. Comme Jésus qui a dit, je te rends mon esprit, hein, ou je rends mon esprit à Dieu. Ça y est, il a rendu, comme on dirait, rendu l'âme, rendu l'esprit, la vie que l'on a. Le plus terrible des voleurs, ce n'est pas le voleur de richesse. Ce n'est pas les écrans, bien qu'ils peuvent être néfastes et des ennemis pour nous. Ce ne sont pas juste les personnes qui nous ont déçus ou les mauvais ennemis ou les mauvaises situations, les accidents, les mauvaises influences ou les mauvaises amitiés. Le plus terrible des voleurs, c'est le diable, c'est Satan, vous êtes au courant. Lui, il n'a que faire de tes richesses. Le diable n'a que faire de tes richesses. D'accord ? Donc si vous avez un gris-gris, sur lequel il y a une malédiction qui a été faite, comprenez que c'est que du matériel, ça n'a pas de pouvoir sur votre vie. C'est bon ? N'attachez pas, ne prêtez pas foi à ces choses, ne les gardez pas à la maison, brûlez-les. Mais n'ayez pas peur de celui qui voudrait vous maudire, mettre ça sous votre lit, sous votre tente, dans les murs. Vous savez que dans les maisons, autrefois, on mettait des pièces comme un porte-bonheur, il y avait du sel, il y avait des choses comme ça. Eh bien, merci Seigneur, c'est une belle maison, d'accord ? Ça ne peut pas vous maudire. Ne tombez pas dans la superstition qui vous maudirait. On aurait peur de tout. On n'est plus dans la peur en Jésus, car toute arme forgée contre nous est... Amen, brisée. Et toute malédiction sans cause et sans effet, effectivement, c'est ça. Alors bien sûr, je ne m'amuse pas avec ces choses, je ne suis pas superstitieux, mais par contre, je ne suis pas dans cette croyance, mais par contre, je n'ai pas peur. Moi, quelqu'un pourrait avoir un milliard de gris-gris sur lui, je lui dirais « Alors, viens, je vais te parler de Jésus !» Et la lumière peut venir dans son cœur et peut être délivrée de toutes ces choses. Et le diable n'a que faire des richesses. Et il utilise des fausses croyances, la magie, détourne les gens, l'occultisme pour emmener les gens loin de Dieu avec des objets, mais les objets restent des objets. Les idoles n'existent pas, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est que du plâtre, de la pierre, de la terre, des choses comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu derrière. C'est bon jusque-là ? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Ça fait que moi je suis tranquille. Je peux habiter dans un bâtiment où les gens sont ensorcelés parce que j'ai la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et donc je suis plus fort. Mais le diable, il veut voler ton âme, il veut te faire croire que tu dois vivre dans la peur, que attention, il y a les sorciers, il y a les machins, il y a l'occultisme et tout ça. N'y touche pas, mais toi, tu es plus fort en Jésus-Christ. Et ton âme, elle n'a pas à se faire voler pour être dans la peur, etc. Le diable veut nous voler notre âme en nous rendant soit athées, soit religieux, soit occultes. Les athées se sont fait voler l'esprit que Dieu avait voulu mettre, le souffle de vie, et puis l'esprit que Dieu voulait mettre dans les cœurs, et notre esprit est mort spirituellement. Notre esprit est mort. C'est pour ça que quand on vient à Jésus, on vient à la vie. Il y a notre esprit qui se met à vivre. Mais avant la rencontre avec Jésus, avant ma conversion, mon esprit il est comme mort spirituellement. J'ai un esprit, mais il est mort et il vit dans les choses de la mort. Quand je vis dans l'occultisme, mon esprit est mort dans l'occultisme. C'est que la mort qu'il y a. Il n'y a pas de vie dans l'occultisme. N'allez pas voir les voyants, les magnétiseurs et toutes ces personnes qui croient bien faire peut-être parfois, mais qui sont des instruments de Satan. Et c'est lui qui se déguise en ange de lumière pour piéger les gens et voler leur âme, les rendre prisonniers. Alors que le Seigneur nous veut libres. par la vérité qui est en Jésus-Christ. Que ce soit l'athéisme des gens, ils croient à la science et disent « moi, il n'y a que la science, il n'y a que ce que je vois que je crois », eh bien tout ça, c'est se faire voler son esprit et son âme. Parce que ça me rend incapable d'aller vers Dieu. Si je dis « je suis athée » et que je refuse de croire en Dieu, eh bien je ne peux pas être sauvé. Je ne serai pas sauvé. C'est grave. Et je me fais voler mon âme. Le diable nous rend athées. C'est le diable aussi qui nous rend athées et qui tue la foi en nous, qui nous empêche de croire en Dieu ou en un Dieu, mais parfois on a une religion. Parce que le diable, il brouille les pistes. Il n'y a qu'un chemin vers la vérité, il n'y a qu'un chemin vers Dieu, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a qu'un seul chemin. Et nous, on va dire, oui, mais Jérémy, pasteur, quand même, le bouddhiste, c'est pas si mauvais. C'est une bonne philosophie, c'est ceci, cela. Eh bien, renseignez-vous, vous allez voir que ça n'a rien de bon. C'est terrible. Les gens qui sont dans le bouddhisme, c'est terrible. C'est une angoisse terrible. Il n'y a rien de beau et d'apaisant dans le bouddhisme. C'est faux. Toutes ces choses de machin avec le yoga et le tralala, c'est faux. Quand vous examinez les choses en profondeur, vous voyez que c'est angoissant. Parce que vous faites tous vos efforts pour atteindre le nirvana, aller au plus haut et être le plus parfait. Et même, ça vous prend même plusieurs vies, soi-disant. Et c'est un piège, parce qu'on vous dit, tant pis, tu n'y arrives pas cette vie, tu recommences celle d'après. Sauf que la Bible a dit, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi, viens-le. Donc il te dit, attends la prochaine vie, t'inquiète. Comme ça, ben, le jour où tu meurs, eh ben, tant pis. Vous savez, le diable, il est comme ça. Hein. Il dit, oh, tout le monde le fait, fais-le, c'est pas grave. Et puis dès que tu le fais, il dit, t'as vu comme t'es ? Dieu t'aime pas, il t'accuse, il te pointe du doigt, il t'écrase. Parce qu'il est comme ça, il te ment, c'est un menteur, c'est le père du mensonge, le diable. Merci. Il dit, prêche, pasteur, vas-y. Mais les religions, sous couvert d'être belles, finalement, elles nous enferment, elles nous emprisonnent. Même ici, je prie, je le sais que ce n'est pas le cas, on ne veut pas enseigner une religion, bien que la religion pure et sans tâche dans la Bible, c'est de visiter les veuves et les orphelins et se préserver des souillures du mal. Ça va, vous connaissez ? Jacques chapitre 1, verset 27. Je répète, la religion pure et sans tâche, selon Dieu, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Ça, c'est la religion pure et sans tâche, mais rien à voir avec les religions de ce monde. Et même le diable, il est futé quand même. Il est futé parce qu'il a réussi à inventer des religions où on parle de Jésus. On parle de la croix. On parle de la grâce. On parle de l'Esprit Saint. On parle de tout, le langagier, le livrier, mais on va juste ajouter certaines petites choses. Et puis on va te raconter à la fin que c'est par tes œuvres que tu peux être sauvé. Et tout est par terre. Parce qu'aucune œuvre ne peut me sauver. C'est la grâce de Jésus qui est mort à la croix. Et je ne peux rien ajouter pour mon salut. Ce que j'ajoute et ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu, tout simplement, pas pour mon salut. Il n'y a plus rien pour moi. Ce qui est pour moi, c'est dans la croix. Et moi, ma place, elle est à la croix. Si je vis aujourd'hui, c'est en Jésus. Et je veux que ce soit Christ qui vit en moi, comme Paul l'a dit. Donc attention, désolé, j'espère que je ne vais pas trop vite, que vous arrivez à enregistrer, et puis en même temps que je suis clair, et si je fais des erreurs, allez demander à votre pasteur, tiens Jérémy, il a dit ça, et très bien, au moins vous allez pouvoir corriger. Toujours important de vérifier si ce qu'on nous dit est vrai, et de le confronter à la parole de Dieu. Le diable détruit la foi, il éloigne de Dieu, de ce Dieu qui nous a créés, pas de n'importe quel Dieu. Parce qu'on dit du moment qu'on a un Dieu, une foi, non, ce n'est pas les fois qui sauvent, c'est la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le Dieu créateur. Il ne veut pas seulement nous distraire, il veut nous arracher à Dieu. Comment se protéger ? Eh bien, dans 1 Corinthiens 6, 20, il est dit que Jésus nous a rachetés à un grand prix. Jésus dira, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il nous fait aussi cette promesse, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors comment faire pour ne pas tomber dans le piège de ce voleur d'âme ? Eh bien, il faut aller vers Jésus. J'en reviens à mon début. Le voleur est venu égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc le seul qui répond à tous ces voleurs, c'est Jésus-Christ. Et je conclus, en lui, tous les voleurs sont mis en échec. Parce que le Seigneur, il me pourvoit à tous mes besoins. On peut me prendre, hein, comme le dit ce chant, « Si le monde te reprend, et ton or et ton argent. » Vous connaissez un peu ce texte ? Ce chant ? Bon bref, peu importe, c'est vieux. Échec. Le voleur de richesses, tu ne dois pas en avoir peur. Et le Seigneur nous protège de ce voleur. Déjà, il peut envoyer des anges protéger ce qui est à nous. Mais au-delà de ça, même s'il permettait qu'un voleur nous prenne quelque chose, c'est peut-être juste pour nous apprendre à ne pas nous attacher à ces choses. Et en vrai, il a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Le deuxième voleur, le voleur de temps, le Seigneur nous l'a dit, il nous donne des années, il nous rachète le temps, il nous permet de racheter le temps en l'utilisant de la bonne manière, il nous pardonne pour le temps perdu, mais il nous donne une vie efficace et pleine d'efficacité et de vie aujourd'hui. Pour le voleur de cœur, le Seigneur peut guérir, peut laver, peut purifier, peut changer les cœurs qui ont été brisés, salis, souillés, etc. Jésus est celui qui purifie les cœurs. Et pour notre âme, le Seigneur est un bon berger. Il va te garder des mensonges de la religion, du doute qui nous conduit à l'athéisme, et puis en même temps de l'occultisme. Il nous protège des attaques de l'ennemi et de la sorcellerie et de tout. Et en même temps, il nous conduit et fait briller la lumière dans notre vie. Et il sauve notre âme. Je peux dire dès aujourd'hui, je suis sauvé. C'est pas de l'orgueil. Un jour, on me dit, t'es orgueilleux, tu dis que t'es sauvé, tu sais pas, t'es pas encore mort. Alors, je veux pas vivre dans l'angoisse, moi. Et Paul, il dit, ouais, je sais, aujourd'hui, etc., la couronne de gloire m'est réservée. Mais attends, j'ai dit, mais c'est juste du bon sens et c'est de la foi de croire qu'on est sauvé aujourd'hui. Je suis sauvé, bien sûr, en espérance, je serai délivré du péché plus tard, mais je suis déjà sauvé aujourd'hui parce que j'ai confessé Jésus-Christ. Et c'est en confessant Christ comme Seigneur, Sauveur et Seigneur, eh bien que je suis enfant de Dieu et que je suis sauvé. Je suis déjà sauvé, mais je ne suis pas encore transformé, je ne suis pas encore élevé dans le ciel. Un jour, je partirai et j'espère que vous serez avec moi. Et voilà. Je termine avec ces deux versets. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Peu importe le voleur qui se dresse devant toi, Jésus est là et il te protège sous l'abri du Très-Haut de notre Dieu. » Alors qu'est-ce que le voleur t'a pris? On se pose cette question. Qu'est-ce que le voleur t'a pris? Peut-être que quelqu'un s'est fait voler quelque chose. Qu'est-ce que le voleur t'a pris? Est-ce que c'est tes richesses? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ton âme qui est en danger? Est-ce qu'il tente de te voler quelque chose et que tu es dans un combat et tu sens bien que là, il y a quelque chose qui menace d'être volé? Il y a quelqu'un qui tourne autour de ta maison et tu sens que la menace est là. Est-ce que tu as laissé une porte ouverte qui pourrait laisser le voleur rentrer? La Bible dit « garde ton cœur ». On est appelé à veiller quand même. Est-ce que tu réalises que tu n'as pas suffisamment gardé? Racheter le temps peut-être. Et la dernière question, c'est est-ce que Jésus est vraiment ton gardien? Est-ce qu'il est vraiment ton berger? Est-ce que le Seigneur Jésus est vraiment celui qui te garde? Parce que s'il te garde, tu n'as pas à avoir peur au voleur. Mais s'il n'y a pas Jésus dans ta vie, ces voleurs vont venir te dépouiller. Les richesses et la beauté, le cœur, toutes les choses que Dieu t'a données et veut te donner. Je répète, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Jésus n'est pas un voleur, il frappe et il ne force pas la porte. Il laisse chacun de nous lui répondre et dire entre ou reste dehors, ou faire semblant de ne pas entendre. Mais ce matin, à chacun de vous, à chacun de nous, à moi aussi, le Seigneur dit, Jérémy, est-ce que tu t'es fait voler quelque chose? Est-ce que tu réalises que tu n'arrives plus à pleurer? Est-ce que tu restes insensible? Est-ce que tu es dans une addiction? Est-ce que tu es dans quelque chose qui te prend tout ton temps? Est-ce qu'il y a une relation qui brille à tes yeux dans laquelle tu es parti ou tu veux partir? Il y a un combat dans ton cœur. Et le Seigneur voudrait te dire, je suis bon berger, je veux te garder. Parce que tu ne réalises pas, mais derrière ça, il y a un voleur qui attend. Il attend la faille. Il attend que tu dormes. Il attend que tu sois distrait, distraite. Ne te laisse pas voler ce que le Seigneur t'a donné ou veut te donner. Les choses qu'il a en réserve pour toi et pour l'Église de Muret. Amen. Seigneur, nous réalisons encore ce matin, parce que ta parole nous le dit, tu nous aimes d'un amour incroyable, alors tu nous avertis, il y a des voleurs. Et nous ne voulons pas, Seigneur, l'accès aux voleurs. Nous voulons garder une concentration, garder une veille pour non seulement recevoir de toi tout ce dont on a besoin, mais en même temps ne pas le perdre. Merci encore, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es fidèle, parce que tu fais toutes choses belles. Merci parce que tu nous aimes et tu nous avertis. Merci, Seigneur, parce que ce matin, nous avons l'occasion aussi peut-être de voir nos cœurs, nos vies brisées être restaurées. Peut-être que quelqu'un ce matin, Seigneur, a ce message qui l'interpelle. Je voudrais que tu puisses venir à son secours, venir à son aide, et que tu fasses ce que tu fais le mieux, réparer, laver, consoler, changer, redonner. Seigneur, merci encore pour ton amour et ta patience. Que ton nom soit béni. Amen. Pendant que la musique joue, je voudrais qu'on garde nos yeux fermés, on garde ce temps discret, respectueux. Et je voudrais poser la question, est-ce que parmi l'auditoire ce matin, il y a une personne qui réalise qu'elle s'est fait voler quelque chose et qui veut demander à Jésus de venir lui redonner ce qu'elle s'est fait voler. Réparer la serrure, réparer la porte, remettre des barrières de sécurité. Non pas une carapace qui devient une prison, mais une barrière de sécurité, celle de ta présence et de la lumière de Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans ce cas-là? Je t'invite à lever ta main à ta place, en disant, moi, je réalise, je me suis fait voler. Ok, vous pouvez baisser votre main, je vous ai vu. Oui, tu peux baisser ta main, je t'ai vu. Ok, je vous ai vu. Très bien, vous pouvez baisser votre main, je vous ai vu. Pareil. Oui, j'ai vu votre main levée. J'ai vu la main levée, tu peux baisser ta main. Pareil, j'ai vu ta main. Je vais prier, je vais demander au Seigneur d'agir. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui se sont fait voler, attaquer. Viens encore, Seigneur, réparer. Viens réenrichir, viens redonner ce qui a été volé, Seigneur. Que ce soit du temps, que ce soit du cœur, que ce soit une âme, que ce soit ce dont on a besoin pour manger. Peut-être quelqu'un s'est fait dépouiller de ses économies, je ne sais pas. Seigneur, viens encore, Seigneur. Restaure, redonne, je t'en prie, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur. Peut-être on s'est manqué, peut-être c'est nous qui n'avons pas veillé. Peut-être que c'est autre chose, Seigneur, mais peu importe comment on a été volé. Toi, tu es celui qui est le bon berger, qui aujourd'hui va venir et qui va mettre cette veille autour de nous, qui va allumer la lumière, Seigneur, qui va chasser les ténèbres, qui va chasser les voleurs. Toi, tu es un berger qui voit, qui ne sommeille ni ne dort. Merci encore de protéger nos vies, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de pardonner, de réparer, de restaurer, Seigneur, et de protéger, Seigneur, tes enfants. Tu vois, tous ceux qui ont levé la main, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais toi, tu lis dans les cœurs. Tu connais toute leur vie et ce matin, tu viens, Seigneur, mettre un arrêt à ces vols, Seigneur, et tu viens déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi le gardien de nos âmes, Seigneur, et tu donnes la force à chacune de ces personnes de plonger leur regard dans ta parole pour être enrichi, de mettre du temps à part pour toi, pour être en relation avec toi, pour connaître ta volonté, être guidé par toi et pas aller dans des chemins de traverse, dans des ruelles sombres, Seigneur, dans les pièges de l'ennemi. Merci encore, Seigneur Jésus, tu nous avertis, tu nous équipes, que ton nom soit béni encore, Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Amen.